Bonjour à tout le monde. Plusieurs personnes m'ont demandé où était Brigitte ce matin. Et pour éviter de donner la même réponse 50 fois à la fin du culte, juste pour dire qu'une fois par an, notre fille Meryl et son mari Théo sont invités à l'Auriole pour présider et animer la première partie du culte avec la louange, etc. Donc ce matin, ils sont à l'Auriole. Et avec Baby Joshua, qui a 5 mois, ça allait être compliqué. Donc, Brigitte se portait volontaire d'aller les aider à l'Auriole ce matin. Alors, les mauvaises langues disent que ma femme préférait écouter la présidence de son beau-fils que d'écouter la prédication de son mari. Ça, c'est les mauvaises langues, mais vous n'êtes pas des mauvaises langues. Ce matin, le texte devant nous est affiché, Jean 11, 27 à Jean 12, 44. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, pardon, Marc, que ma femme n'est pas là, je suis un peu perturbé. Bon, il faut qu'elle écoute ça, hein? Vous allez lui dire. Hein? Marc, voilà, c'est l'évangile de Marc, bien sûr. Alors, il s'agit donc d'un texte de 51 versets. Donc c'est un texte qui a été choisi par les anciens il y a quelques mois pour ce dimanche-ci. Alors si je lis tous ces versets, il ne me restera plus le temps pour prêcher. Et j'aurai juste le temps pour dire Amen et bon dimanche à chacun. Donc ce que je vais faire, je vais résumer très brièvement les 51 versets et m'arrêter sur deux paroles de Jésus. Alors, comment résumer tout ce texte? Eh bien, Jésus se trouve à Jérusalem, et ce n'est pas la première fois qu'il se trouve à Jérusalem. Et c'est une des dernières fois, parce que nous sommes à quelques jours avant sa crucifixion. Ce n'est pas la première fois que les chefs religieux cherchent à piéger Jésus par des questions pièges. Et Jésus, bien sûr, sait répondre à ces questions. Dans ce texte, il y a une parabole que Jésus raconte. Et ce n'est pas la première fois que Jésus raconte une parabole. Vous savez peut-être que nous avons une quarantaine de paraboles de Jésus dans les évangiles. Et quand je dis dans les évangiles, je devrais dire dans des évangiles. Parce qu'un évangile n'a aucune parabole. L'évangile de Jean. Mais les 40 paraboles que Jésus raconte sont dans Matthieu, Marc et Luc. Jésus pose des questions dans ce texte. Et ce n'est pas la première fois que Jésus pose des questions. Certains savent que j'ai relevé 253 questions de la bouche de Jésus dans les 4 évangiles. Et on a une dizaine de questions de Jésus dans les versets qui sont affichés. Et ce n'est pas la première fois que Jésus fait appel aux Écritures et que Jésus recommande fortement la lecture de la parole de Dieu. À tel point qu'à deux reprises, Jésus dit à ses interlocuteurs, n'avez-vous pas lu, sous-entendu, dans les Écritures, ce qu'on dit à mon sujet? Et ce n'est pas la première fois que Jésus parle de l'argent dans les évangiles et de la générosité. Et nous avons l'épisode d'une veuve qui donne tout ce qu'elle a à la collecte ce jour-là au temple. Mais comme je disais, nous allons nous arrêter sur deux versets. Et le premier verset est une question. Et le deuxième est un constat. Le premier verset, Marc 12, 24, Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ?» Une question. Et puis, le deuxième verset est un constat ou peut-être une condamnation. Marc 12, 27, « Vous êtes complètement dans l'erreur. » Alors, à qui est-ce que Jésus dit cela? Eh bien, il dit cela à des gens qui étaient très, très religieux, qui connaissaient normalement très bien les Écritures, Mais en fin de compte, il connaissait mal les Écritures. Jésus se trouve face à deux groupes de personnes. Un premier groupe vient lui poser des questions. Ensuite, un deuxième groupe vient lui poser des questions. Le premier groupe est composé de trois groupes. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens du peuple. Alors, pour moderniser ces gens, pour les trouver les équivalents d'aujourd'hui, le premier groupe noir, c'est les représentants des cultes. À l'époque, il n'y avait qu'un culte, hein, le culte juif. Et c'était les prêtres, donc tous descendants de Lévi, un des fils de Jacob. Les spécialistes de la loi étaient l'équivalent des membres du conseil constitutionnel en France, qui connaissaient la loi, qui peuvent conseiller les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et les anciens du peuple, pardon, c'était les membres du conseil municipal de Jérusalem. On les appelait les anciens. Et les voilà, pas très souriants, toujours en train de râler, toujours en train de contester, toujours en train de se plaindre. Alors, ces gens-là étaient dans l'erreur. Non seulement parce qu'ils s'opposaient à Jésus, mais aussi parce qu'ils craignaient la foule. Ils s'opposaient farouchement à la personne et à l'enseignement de Jésus. Et il était écrit deux fois, ils redoutaient les réactions des gens, du peuple, de la foule. Ils ne savaient pas comment répondre à certaines questions que Jésus leur a posées parce qu'ils redoutaient les réactions du peuple. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, eh bien, il y avait les pharisiens, les hérodiens et les sadduciens. Les pharisiens, à ne pas confondre avec les parisiens. Il y a des années, on avait des voisins, des chers amis, le monsieur était un chauffeur de taxi, et tous les mercredis, on allait chez eux pour lire la Bible et pour manger. Ils ne connaissaient pas le Seigneur, mais ils voulaient connaître la Bible. Et un jour, ils ont dit, est-ce que notre belle-sœur peut venir? Elle s'appelait, je ne vais pas vous donner son nom, est-ce que notre belle-sœur peut venir pour lire la Bible avec nous et pour manger? Et j'ai dit, bien sûr. Donc, elle est venue. Et puis on lisait autour de, ils étaient sur le divan et moi j'étais en face, et puis on lisait un texte dans les évangiles, et la belle-sœur tenait absolument à lire, et c'était un texte au sujet des pharisiens. Et quand elle a commencé à lire, elle a lu, les parisiens s'approchèrent de Jésus. Alors, le chauffeur de taxi et sa femme se sont moqués d'elle. Moi j'ai essayé de retenir mon envie de rire et j'ai laissé le chauffeur de taxi pour qu'il puisse corriger avec douceur sa belle-sœur, pour qu'elle comprenne que la Bible ne parle pas des parisiens, mais des pharisiens. Alors, les pharisiens, c'était qui ça? C'était un parti politico-religieux et ils se croyaient purs, on va dire presque parfaits. Et ils ne fréquentaient pas, disait-on, les pécheurs, parce qu'ils avaient peur d'être contaminés s'ils étaient dans la même pièce qu'un pécheur. Ce qui veut dire qu'ils ne se considéraient pas comme des pécheurs. Ensuite, les Hérodiens. Eux, c'était un autre groupe composé des Juifs qui étaient favorables à la dynastie des Hérodes, c'est-à-dire ils étaient des royalistes, et aussi ils étaient contents dans la présence des Romains, des envahisseurs. Les autres Juifs n'étaient pas du tout contents de la présence des Romains. Et ensuite, il y a les Sadduciens, un autre parti politico-religieux composé de hauts fonctionnaires qui étaient des hommes tous très riches. Et parmi leurs croyances, ils ne croyaient pas qu'on pouvait ressusciter d'entre les morts. Donc, quelques jours après cette discussion avec Jésus, ils allaient avoir des problèmes, parce que Jésus va ressusciter d'entre les morts. En tout cas, ces gens-là, les Sadduciens, n'étaient pas du tout d'accord avec les pharisiens, mais ils étaient unis dans leur combat contre Jésus. Ces trois groupes-là, donc pharisiens, hérodiens et sadduciens, étaient caractérisés par plusieurs erreurs. Il s'opposait, comme les autres, à l'enseignement et à la personne de Jésus. Il ne croyait pas à la résurrection. Il croyait que certains commandements étaient plus importants que d'autres. Tandis que l'épître de Jacques nous dit que si on désobéit à un commandement, on est coupable de désobéir à tous les commandements. Et une autre erreur, il pensait que l'extérieur valait plus que l'intérieur. Et l'histoire, le récit au sujet de cette pauvre veuve qui vient mettre tout ce qu'elle avait dans le tronc lors de l'offrande ce jour-là au temple, était très parlante. Parce que les pharisiens, quand ils venaient au temple pour l'offrande, ils faisaient annoncer combien d'argent ils allaient mettre dans le tronc. D'ailleurs, je crois que j'ai dit il y a quelques semaines qu'au temple, il y avait 13 troncs. Et on les appelle les trompettes, parce qu'ils étaient comme les trompettes à l'envers. Et ils mettaient l'argent dans une trompette pour acheter des agneaux, une trompette pour les habits des sacrificateurs, une trompette pour les pauvres, etc. Et quand les pharisiens venaient au culte, ils se faisaient entourer par des musiciens qui proclamaient haut et fort combien d'argent chaque pharisien allait mettre dans les troncs, dans les trompettes. Ce n'est pas très discret. Tandis que cette pauvre veuve, Jésus la voit. Et Jésus sait combien ça lui a coûté de mettre tout ce qu'elle avait dans le tronc discrètement. Donc, ce n'est pas l'extérieur qui compte, ce n'est pas le tape à l'œil qui compte. C'est l'intérieur, c'est le cœur qui compte. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16. Alors, revenons donc à la question de Jésus et à son constat. N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Et puis, vous êtes complètement dans l'erreur. Comment, en 2024, comment ne pas être coupable d'attitudes ou de croyances mauvaises et erronées? Que faire pour ne pas entendre en 2024 le même reproche qui sort de la bouche de Jésus? Ou pour être plus précis, qu'est-ce que moi je dois faire pour que Jésus ne me dise pas un jour, « David, tu ne connais pas les Écritures. David, tu ne connais pas jusqu'à tel point Dieu est le Tout-Puissant. David, mon pauvre, tu es complètement dans l'erreur. Tu es complètement à côté de tes pompes. Tu es en très mauvaise posture. » Comment faire pour que Jésus ne nous fasse pas un reproche pareil? Eh bien, il y a une solution, ou plutôt deux solutions, qui sont toutes simples. Faciles à dire, mais pas toujours faciles à mettre en pratique. Nous devons à tout prix mieux connaître la parole de Dieu. Ainsi, Jésus ne nous dira pas, mais vous ne connaissez pas les Écritures. Et nous devons à tout prix mieux connaître la puissance de Dieu. C'est facile de dire ça. Mais que faire pour mieux connaître la parole de Dieu? Voilà un petit dessin d'un membre de notre Église en train de lire la Bible. C'est quelqu'un qui mène une vie de chien. Non, toute ressemblance avec quelqu'un existant ou ayant existé est tout à fait fortuite. Un chien qui lit la Bible, ça n'existe pas. Mais des êtres humains qui lisent la Bible, bien sûr, ça existe. Que faire pour mieux connaître la Bible? Cinq verbes sur les cinq doigts de la main gauche. Entendre ou écouter la lecture de la Bible, la prédication de la parole de Dieu, les études bibliques, lire la Bible, pas seulement dimanche matin, mais lire la Bible seul, si c'est possible en couple, si c'est possible en famille, mais lire la Bible seul à l'église, en petit groupe en grand groupe. Étudier, ce n'est pas la même chose que lire. Là, on s'arrête sur des mots, des phrases, on réfléchit à la définition, on lit avec un commentaire, on lit avec une aide, on lit en écoutant une prédication sur ce texte. Étudier, mémoriser. Oh là là, ça c'est compliqué, hein, quand on a presque 70 ans. Mémoriser la Bible. Mais on peut mémoriser. Et je peux vous dire que si on mémorise des versets quand on est jeune, jamais, sauf si on a certaines maladies, jamais on les oublie. Je peux vous citer que certains endroits où j'ai lu et j'ai compris, j'ai mémorisé plutôt un verset biblique et le verset est toujours là. J'ai oublié plein d'autres choses, mais certains versets restent. Et la parole de Dieu est vivante. C'est une parole, c'est une épée, c'est un marteau, c'est de l'eau qui purifie. N'ayons pas peur de mémoriser un verset par-ci, par-là. Moi, j'ai honte de dire que je n'ai jamais mémorisé un chapitre en entier. Moi, je connais des chrétiens qui ont mémorisé Romains 8, 39 versets, du début à la fin. Mais mémorisons des versets bibliques. Et faites-le avec quelqu'un d'autre et on peut s'encourager. Ou on peut se décourager mutuellement. J'ai commencé à mémoriser des versets avec un homme qui avait 30 ans. Moi, j'avais le double. Oui, il allait bien. Moi, c'était moins bien. Mais ça fait du bien. Et ça nous rend humbles aussi. De dire, mais mon cerveau ne fonctionne pas toujours comme avant. Méditer. On peut lire la Bible en 9 mois. 68 livres en 9 mois. 4 chapitres par jour, 5 par jour. Et on peut lire un livre en 1 mois. En s'arrêtant sur des versets, sur des phrases. Et en réfléchissant, mais qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est le principe de O-I-A. Observation, que dit ce texte? Interprétation, que veut dire ce texte? Application, que veut me dire moi aujourd'hui, le 12 mai 2024? Que dit ce texte pour moi? On a besoin de lire la parole de Dieu, écouter des podcasts, et ça nous fait du bien, ça nous nourrit, ça nous aide à grandir, et ça évitera peut-être que Jésus nous dise un jour, « Mais toi, tu ne connais pas la Bible. » Qui connaît bien la Bible parmi nous? Qui lit la Bible tous les jours parmi nous? Qui lit la Bible une fois de temps en temps parmi nous? Connaître la parole de Dieu. Personne ici a rencontré William Harrison, moi non plus, mais c'était un homme qui, à l'âge de 20 ans, a fait une promesse au Seigneur. C'est bien de faire des promesses au Seigneur. C'est mieux de tenir les promesses quand on fait une promesse au Seigneur. Et il a fait une promesse au Seigneur à 20 ans, il a promis. Pendant qu'il était étudiant, que jusqu'à la fin de ses jours, il lirait l'Ancien Testament une fois par an, le Nouveau Testament 4 fois par an. Cet homme-là était général et responsable des forces armées de l'OTAN pendant quelques années. Il travaillait 36 heures par jour. Mais il a tenu sa promesse. Jusqu'à l'âge de 90 ans, quand il n'arrivait plus à lire. 90 moins 20, ça fait 70 ans. Ce qui veut dire qu'en 70 ans, il a lu l'Ancien Testament 70 fois et le Nouveau Testament 4 fois 70. Qui, me semble-t-il, fait à peu près, grosso modo, grâce à ma calculette, 280 fois il a lu le Nouveau Testament. Je ne dis pas que nous sommes tous obligés ou appelés à faire pareil, mais ça c'est un exemple de quelqu'un qui lisait la parole parce qu'il aimait la parole de Dieu, parce qu'il aimait le Seigneur. Et je suis sûr que Jésus ne lui a pas dit le jour de sa mort, parce que ça fait quelques années qu'il est décédé. Je suis sûr que Jésus ne lui a pas dit, « Au fait, toi, tu ne connais pas les Écritures. » Que faire pour mieux connaître la puissance de Dieu? C'est autre chose. Lire la Bible, ok, on connaît mieux la Bible. Mais que faire pour mieux connaître la puissance de Dieu? Alors, trois petites pistes, tout simples. Pensez à des chants. Pensez à des cantiques qu'on chante ici, qu'on chantait autrefois, qu'on entend sur Phare FM, qu'on entend dans d'autres églises. Pensez à des chants et des cantiques qui parlent de la puissance de Dieu. Il y a quelques chants pour enfants qu'on chante avec nos enfants et avec nos petits-enfants maintenant qui parlent de la puissance de Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Je suis tenté de chanter ça, mais ce message est enregistré et j'ai peur que le micro explose. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. On veut que les enfants sachent cela. Les monts sont à lui, les cieux sont à lui, etc., etc. J'ai pensé à un autre chant qu'on a chanté dimanche dernier. Il tient le monde dans ses mains. Dieu tient ce monde dans ses mains. Les aurores boréales qu'on peut voir en France et dans pas mal de pays dans le monde, c'est la beauté de la création que Dieu permet. Il tient le monde dans ses mains. Le 11 août, je crois, c'était le 11 août 1999, il y a eu l'éclipse qui a mis la France dans le noir. Mais on savait, à la minute près, quand cette éclipse allait avoir lieu. Parce qu'il y a des lois dans le monde établies par Dieu. Et les scientifiques, croyants ou non-croyants, savaient que l'éclipse aura lieu totalement en France à telle heure, à tel endroit. Et une des premières villes où le soleil commence à briller de nouveau était la ville de Reims. Et dans la cathédrale de Reims, il y avait une chorale gospel. Et vous savez ce qu'ils ont chanté quand le soleil a commencé à briller? Ils ont chanté, il tient le monde dans ses mains. Partout, à la télévision française, il tient le monde dans ses mains. La puissance de Dieu. Pensez, deuxièmement, à des textes bibliques. Combien de textes bibliques parlent de la puissance de Dieu? Combien de versets bibliques qu'on peut apprendre par cœur qui parlent de la puissance de Dieu, qui a créé le monde par son bras étendu, par sa grande puissance. Rien que dans le livre de la Genèse, Dieu parle et il créa le monde. Dieu agit et le monde était inondé. Et puis les eaux sont parties. Dans le livre de l'Exode, Dieu a conduit son peuple de jour et de nuit. Et aujourd'hui, Dieu conduit son peuple. Dieu conduit les chrétiens qui veulent se laisser conduire jour et nuit. Il a ouvert la mer Rouge. Tant de miracles, tant de prodiges dans la vie de Moïse, d'Élie, d'Élisée. Si vous ne connaissez pas Élie et Élisée, lisez un roi, lisez deux rois. Et vous allez voir comment Dieu a agi. Et puis, il y a tant d'exemples dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, d'hommes et de femmes qui ont vu la puissance de Dieu et qui ont dit, « Oh Dieu, tu es grand. » Et au lieu de sauter de joie et de danser, ces gens-là se mettaient à plat ventre, prosternés devant Dieu, en disant, « Seigneur, je suis un homme, je suis une femme dont les lèvres sont impures. Pardonne-moi. Pardonne-moi. » Une troisième piste, pensez à ce que Dieu a fait dans votre propre vie. Alors nous ne vivons peut-être pas des miracles, des prodiges tous les jours, mais pensez à des obstacles que Dieu a enlevés de votre vie, sur votre chemin. Pensez à des montagnes que Dieu a aplanies devant vous. Pensez à des problèmes qu'il a réglés dans votre vie. Pensez à des soucis dont il vous a déchargé. Pensez à des péchés dont il vous a pardonné. Pensez à des maladies dont il vous a guéri. Pensez à votre passé et demandez à Dieu de vous rappeler comment et combien de fois il est intervenu dans votre vie, de façon simple, parfois de façon spectaculaire. Mais combien de fois Dieu a agi par sa puissance et dans sa bonté. Et là, vous allez dire, Seigneur, tu l'as fait dans le passé, tu peux le faire aujourd'hui. Tu l'as fait hier, tu peux agir demain. On a besoin de se rappeler ce que Dieu a déjà fait. Et ça nous fait du bien pour aujourd'hui, et ça nous fait du bien pour demain. Personne ici ne connaît Joe Mullins. Je vais vous montrer sa photo. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Joe était avec l'armée britannique en Birmanie, là-bas à côté de la Chine, grosso modo. Et là-bas, il a reçu deux balles japonaises. Les balles n'ont pas touché son corps, les balles ont touché son casque. Traverser son casque. Il avait deux trous dans son casque. Peu de temps avant la guerre, il s'était converti à 17 ans. Et quand ça lui est arrivé, il s'est rendu compte avec les deux balles qui auraient pu, à quelques centimètres, c'était la mort. Il s'est arrêté. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Merci Seigneur. Il a failli y passer. Après la guerre, il repart en Angleterre et il travaille dans une église et finalement il devient pasteur. Il est décédé il y a 6 mois, à 103 ans. Il a gardé le casque. Et chaque fois qu'il voyait le casque, qu'est-ce qu'il dit? Merci Seigneur. C'était un objet, c'était comment dire, une leçon de choses devant lui. Un rappel visuel de la puissance de la bonté de Dieu. Ça, c'était la Deuxième Guerre mondiale. Dans la Première Guerre mondiale, il y avait un certain Arthur Smith. Lui, il était en 1917 dans la bataille d'Arras. Nous, on a habité à Arras pendant 13 ans. Et Arthur Smith, il est en train d'attaquer la ville d'Arras pour chasser l'ennemi. Et il y a un obus qui éclate, qui explose, juste à côté de lui. Et il sent quelque chose à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous avez à ce niveau-là? Normalement, si vous en avez un, c'est de le cœur. Eh bien, et il s'écroule. Quelques semaines avant de partir en guerre, son père lui a écrit avec un verset biblique qui, est-ce que je l'ai sous les yeux? Oh non, je n'ai pas marqué. Bon. Un verset biblique du psaume 91 où le Seigneur dit: je le protégerai parce qu'il m'appartient. Une promesse. Alors, il connaissait ce verset, Arthur. Quand il est revenu à lui-même, il s'est rendu compte, donc cet éclat d'obus était logé ici, dans cette petite poche qu'il avait sur le cœur, se trouvait sa petite Bible. Il a ouvert sa Bible et l'éclat d'obus a traversé toutes les pages, et je n'exagère pas, toutes les pages jusqu'à la page où il y avait le psaume 91. Donc il n'était même pas blessé, il était choqué, c'est sûr. Et après ça, il a dit, merci Seigneur. Il a gardé cette Bible. Et chaque fois pendant des années après, merci Seigneur. Un rappel de ta puissance dans ma vie. Pour être plus près de la maison, il y a un mois, notre fille Fiona quittait chez nous, ici, pour repartir en Écosse et a passé par chez son frère à côté de l'île. Et il fallait qu'elle prenne, donc elle montait dans le train. Je l'ai emmenée à Saint-Exupéry, à la gare SNCF, et Fiona était là, avec sa fille de 20 mois qui courait partout, avec un énorme sac à dos, avec la poussette, et une valise qui pesait à peu près 150 kilos. Ben, non, j'exagère. On va dire 149 kilos. Soyons honnêtes. Donc, on arrive à la gare. Brigitte me laisse avec Fiona, Aliana et les affaires. Et premier obstacle, on n'a pas le droit de descendre à Saint-Ex sur le quai si on n'a pas, si on n'est pas un voyageur. Donc j'ai dit, bon, je vais utiliser mon charme. Ça marche à tous les coups. Donc on arrive, on voit le contrôleur et j'explique la situation. Il voit Fiona, il voit la petite et tout. Il dit, c'est interdit de descendre. Désolé, monsieur. Donc, j'ai mis une couche. Bon, écoutez, exceptionnellement, vous aurez le droit de descendre. Donc, premier obstacle enlevé. Donc, on descend par l'ascenseur. On arrive en bas et je me suis dit, OK, deuxième obstacle, comment faire pour installer Fiona et sa fille et toutes leurs affaires dans le train sans que la porte se ferme avec moi dedans? Ça arrive, hein? J'ai déjà vu. Un accompagnant est coincé dans le train et puis, part. Donc, on avait déjà prié le matin et on était sur le quai, on attendait. Et puis, tout d'un coup, je vois arriver une jeune femme. Et je dis, mais je connais cette jeune femme. C'est Laetitia qui habite à Dunkerque. Donc, je l'arrête, je dis bonjour Laetitia. Et puis, elle connaissait nos filles, c'est des filles du même âge. Elle se parle, Laetitia est là avec un... de 3 petits-enfants, entre de 1, 3 et 5 ans. On discute avec Laetitia, qui avait des bagages, les trois gamins qui couraient partout. Et puis, il se trouvait que Laetitia était dans le même train, allait à la même ville, et était dans la même voiture, ou le même wagon, le 15. Ah, Seigneur, incroyable. Laetitia était ravie de voir une autre chrétienne avec la petite. Fiona, notre fille, était ravie de voir Laetitia parce qu'ils se connaissent et puis ils ont dit, mais on va pouvoir s'aider. Ils étaient assis presque côte à côte. C'est le hasard. Avant que le train arrive, on s'est mis ensemble, peu importe ce que les gens pensent, et j'ai prié. Et on a remercié le Seigneur pour sa bonne main, pour sa bonté, pour sa puissance. Que ce jour-là, à cette heure-là, les deux étaient ensemble et ils ont pu s'entraider et le voyage de 3 heures a passé comme ça, plus ou moins. Pour changer les couches, pour aller aux toilettes, ce n'est pas le hasard. Un petit exemple, mais on doit se rappeler de ces choses-là dans notre propre vie. Donc, je conclue en disant, mais rappelez-vous comment Dieu vous a aidé, comment Dieu vous a délivré, comment Dieu vous a soutenu, comment Dieu vous a secouru dans le passé. Louez-le et faites-lui confiance pour le prochain obstacle, pour la prochaine étape, pour le problème suivant. Et en louant le Seigneur, décidons dès aujourd'hui à chercher à mieux connaître sa puissance. Décidons aujourd'hui à mieux connaître sa parole. Et plus on connaît sa puissance, plus on connaît sa parole, plus on appréciera sa présence dans notre vie. On va être conscient. Dieu, tu es là. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive. Mais tu es là, ta parole me réconforte. Ta parole m'enseigne et ta puissance m'accompagne parce que ta présence est là. Que Dieu nous aide à ne pas entendre ce reproche de Jésus. Vous ne connaissez pas la puissance. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à vivre de façon à ce qu'on connaisse de mieux en mieux sa présence, sa puissance et sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions car nous pouvons la lire. Nous l'avons à la maison, on peut la lire dans la rue, dans un resto, dans notre salle de culte. Merci pour cette liberté que nous avons. Pardonne-nous lorsque nous bafouons cette liberté. Pardonne-nous lorsque nous ne prenons pas le temps de lire, d'étudier, de méditer, de mémoriser et d'écouter ta parole. Aide-nous, Seigneur, à chercher à mieux connaître ta parole, à mieux connaître ta puissance et à apprécier de plus en plus ta présence dans notre vie de tous les jours. Nous te louons parce que tu nous aimes et nous te louons parce que tu nous accompagnes tous les jours. Amen.